10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, quel plaisir de vous retrouver pour vous écouter, échanger sur ce que vous vivez avec moi, ma camarade et charmante Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous ma chère?
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Vous avez vu comment je l'ai prononcé?
Oui,
j'ai prononcé le
«
on ». Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie comme vous le savez, car vos joies et vos peines nous intéressent. Travailler tard le soir, répondre à des emails tôt le matin, passer des coups de fil professionnels pendant les vacances. Alors que plus de 1500 entreprises se créent chaque jour en France et que de nombreux sont ceux qui travaillent à leur compte, difficile alors de faire en sorte que le travail n'empiète pas sur sa vie professionnelle. Et puis il y a ceux qui travaillent en famille ou avec leur conjoint. Alors comment ne pas tout mélanger et ne pas culpabiliser de ses choix? Comment rendre sa vie harmonieuse entre travail et vie personnelle? Alors vie privée, vie professionnelle, comment trouver le bon équilibre? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Car nous sommes là pour vous écouter.
C'est l'excellent réflexe de l'après-midi. Vous composez le 39-21, 50 centimes la minute pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1 et pour nous écrire. Vous avez le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou Twitter avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Perrine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Perrine.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 30 ans et je viens de Lyon.
D'accord. Alors pendant très longtemps, Perrine, vous avez été salariée d'une entreprise. Que faisiez-vous exactement?
Dans ma dernière expérience, j'étais chef de marché. Donc ça veut dire que j'étais dans le service marketing et commercial d'une entreprise informatique.
D'accord. Et donc c'était très intense?
Alors j'ai vécu deux périodes, une très intense et une moins intense, puisque je m'ennuyais. Complètement.
Vous avez donc vécu ce que l'on appelle un bore-out, hein. Cela se distingue du burn-out puisque cela signifie s'ennuyer au travail, ce qui provoque une véritable dépression. Quel impact cette situation avait-elle sur votre vie personnelle en fait à ce moment-là?
Alors effectivement, ça paraît dingue à chaque fois que j'en parle. Le bore-out, je me dis mais c'est fou de s'épuiser en s'ennuyant, mais c'est vraiment ça.
Ah
en
non,
fait,
ça épuise totalement de s'ennuyer.
Du coup, oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire arriver le matin, la boule au ventre, pilote automatique et regarder ses pieds en marchant le matin, en traversant le couloir, plein de bureaux, à mettre une plante devant son bureau pour pas que les gens me voient, parce qu'en fait, honte de me dire que je servais à rien, je faisais rien et on ne faisait pas forcément confiance. Enfin, ça, en tout cas, c'était ce que je pensais.
Alors, en quittant votre entreprise suite à votre bore-out, vous vous êtes lancée à votre compte, vous êtes devenue entrepreneuse. Vous pensiez que cela vous permettrait d'avoir plus de temps pour vous, pour votre entourage?
Non, pas du tout. Je me suis beaucoup posé la question de si je me lançais ou pas. Je trouve que j'ai un frère entrepreneur. Donc voilà, j'avais toujours un peu ce garde-fou de me dire « bah oui, je sais qu'être entrepreneur, c'est peut-être parfois consacré... certains week-ends ou certaines soirées ou donc non, ça n'a pas été une évidence et je me suis beaucoup questionnée avant de me lancer. Et puis en fait je me suis dit qu'au pire ça marche, je ferai autre chose ensuite et ça m'aura appris, j'aurai vécu une expérience. Mais je sentais vraiment l'envie d'entreprendre et surtout que ça répondait à un besoin.
Mais du coup, en fait, est-ce que cela vous a permis de constater que vous auriez plus de temps pour vous et pour votre entourage? Ou vu que votre première expérience et cette première expérience très intense dont vous parliez dans cette entreprise vous a montré que dès que quelque chose vous attire, dès que vous êtes motivé, vous avez l'air d'avoir ce tempérament de vous lancer complètement à corps et âme dans ce travail, est-ce que il en a été de même dans cette entreprise lorsque vous êtes mis à votre compte?
Forcément. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on se laisse rattraper par la passion. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début à maintenir cet équilibre parce que métier passion, comme on peut le dire. Sauf que je voyais pas que je mettais de côté ma vie personnelle, en fait, que je voyais moins mes amis, que j'allais moins au sport, que je passais à côté de mon couple. Et à un moment donné, ça a pu être possible. Donc voilà, c'est un méprise de recul et ajustement.
Comment vous avez eu ce déclic d'ailleurs? Comment vous vous êtes rendu compte qu'à un moment, ça n'était plus possible et que vous mettiez en péril votre vie de couple et puis peut-être vous remettiez en péril vous-même?
Ça a été mon conjoint en fait, le déclic. Il est rentré le week-end et je me suis rendu compte qu'on ne partageait plus de projets ensemble et en le voyant, j'avais plus cette étincelle, en fait. Et je me suis dit, c'est quand même fou, parce que c'est mon rock, c'est mon soutien, et il me soutient dans l'aventure entrepreneuriale depuis le début.
Oui.
Et je me suis dit, mais comment c'est possible de s'éloigner autant, alors que justement, ce que je veux faire, c'est aider les autres à trouver leur voie, leur équilibre. En fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Alors, Perrine, vous faites allusion à ce déclic qui est passé à travers la mise en alerte de votre compagnon quant à justement ce métier passion qui, à nouveau, vous dévorait. Vous restez en ligne avec nous. Nous allons voir que votre travail a aussi failli vous faire vaciller en même temps qu'il faisait vaciller votre couple. Et comment vous avez appris enfin à distinguer votre vie privée de votre vie professionnelle.
Europe 1. Comment trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Nous vous écoutons au 3921. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous témoignez au 39-21, la vie professionnelle qui empiète sur la vie privée à force d'être continuellement connecté, par exemple, parce que vous travaillez en famille. Venez nous raconter au Standard Europe 1.
Nous sommes toujours en ligne avec Perrine qui nous expliquait qu'après une première expérience en entreprise où elle avait d'abord vécu la passion, celle de la première mission, du premier travail, et ensuite être passée à tout à fait l'opposé et vivre un bore-out, ce qui distingue du burn-out et qui veut dire un ennui profond au travail. Elle s'était mise à son compte et puis que ce métier passion, ce nouveau métier passion, son entreprise l'avait menée au même réflexe qu'au tout début de sa carrière professionnelle et qu'elle s'était lancée corps et âme dans cette entreprise et que finalement son conjoint l'avait alertée sur ce couple qui était en train de vaciller et puis Perrine, votre vie aussi, votre vie à vous était en train de vaciller. Votre conjoint a commencé à vous faire donc remarquer que vous n'aviez plus de projet ensemble à cause de votre travail. Comment est-ce que vous avez pris cette remarque? Parce que c'est difficile lorsqu'on est passionné, lorsqu'on est vraiment à fond dans sa mission, dans son travail, d'entendre ce type de remarque.
Je ne l'ai pas mal pris, en fait, mais c'est plus sur le coup, en fait, ça a été comme une douche froide.
Il est plutôt d'un tempérament un peu enlevé, votre compagnon, en fait, il dirige un peu, ou est-ce que vous avez tous les deux, vous avez une relation équilibrée et où l'un ne prend pas l'ascendant sur l'autre?
Je partirais sur la deuxième option.
On est plutôt équilibré.
C'est ça, oui. Donc, c'est quand il y en a un qui prend le lead, l'autre laisse un peu la place et inversement aussi. Donc, c'est reposant et à la fois stimulant.
Aujourd'hui, vous avez pris conscience d'une chose, c'est en sachant s'arrêter parfois que le travail nourrit vraiment. C'est-à-dire, comment faites-vous et que vous autorisez-vous aujourd'hui, professionnellement, et puis pour justement préserver votre vie privée?
Déjà, j'ai de nouveau des week-ends. Je choisis vraiment de prendre le temps des week-ends pour décompresser, justement construire d'autres projets entre la famille, mon conjoint, mes amis. Même si forcément, il y a des périodes de chauffe dans la semaine. Par exemple, hier, je me suis couchée assez tard. Mais je sais que derrière, ce week-end, je suis chez mes beaux-parents, j'ai ces phases de décompression.
Mmh. Est-ce que vous vous écoutez plus, Perrine, aujourd'hui? Parce que riche de ce que vous avez vécu une première fois en entreprise et puis aussi de cette mise en péril de votre couple et puis de vous aussi, puisque si vous perdiez votre compagnon, j'ai l'impression que ça aurait été quelque chose d'assez grave pour vous. En fait, vous vous écoutez plus aujourd'hui? Vous êtes plus connecté à vous-même?
Alors, je dirais pas plus, mais mieux, parce que si j'en suis arrivée aussi à cette reconversion professionnelle, c'est aussi parce que j'ai reconnecté petit à petit ce qui était important pour moi, et j'ai commencé aussi à faire des stages de méditation, à le mettre en pratique dans mon quotidien, par exemple. Mais du coup, cette étape me permet de mieux m'écouter.
Est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui, Perrine? Est-ce que vous arrivez à déculpabiliser pour apprendre justement à ne pas à nouveau vous surmener?
Je dirais que je fais du mieux que je peux pour contribuer à mon épanouissement et à celui des autres. L'entrepreneuriat reste malgré tout une aventure pleine d'inconnus, de rebondissements, d'apprentissage. Et donc, je ne pourrais pas dire que je me déculpabilise à 100% et que, euh, que je suis pas en surmenage parfois. Par contre, ce que je sais, c'est que, ou ce que je sens, c'est que j'avance sur mon petit chemin en sérénité et en lâcher prise sur pas mal de choses. Ce qui veut pas dire que, voilà, parfois, je me remets dans
dans
mes
le
travers naturels de mince, mais il y a encore tellement de choses à faire, mais c'est génial. Et à la fois, voilà, pour y arriver, il faut y passer du temps. Mais je pense que c'est un chemin et que je fais du mieux que je peux et que j'apprends chemin faisant.
Faire du mieux que vous pouvez et puis doucement mais sûrement, Perrine, n'oubliez pas, parce que c'est aussi une devise qui marche pour l'entrepreneuriat, surtout quand un entrepreneuriat est fait ses premiers pas, hein, même si votre entreprise a quelques mois maintenant, mais doucement mais sûrement, et vous allez sûrement apprendre à concilier cette passion de votre métier et puis votre vie privée, votre vie de couple. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Dans quelques instants, nous serons avec Pascal Bélanger. Elle est auteure et manager de l'expertise efficacité professionnelle chez Segos.
Europe 1.
L'art de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Arrivez-vous à établir une frontière nette où les deux sont indissociables? Venez nous raconter au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Entre des salariés désormais hyper connectés, le nombre croissant d'entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, comment arrivez-vous à établir une frontière hermétique entre vie perso et vie pro? Vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous attend au 39-21.
Et pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec Pascal Bélanger, auteur et manager de l'expertise efficacité professionnelle chez Segos. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, vous avez publié en 2014 aux éditions Dunod l'ouvrage « La boîte à outils de la gestion du temps ». Alors, est-ce que bien gérer son temps, bien gérer son emploi du temps, ça n'est qu'une question avant tout d'organisation ?
C'est d'abord et avant tout une question d'objectif, je dirais.
Oui.
Et si je rebondis par rapport à tout ce que Perrine a dit tout à l'heure, et le chemin qu'elle a fait, nous avons tous plusieurs sphères dans notre vie. Il y a la sphère professionnelle, mais il y a également la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère personnelle également, ce qui nous fait plaisir à nous. Donc avant de s'organiser sur le plan professionnel, on peut aussi se poser la question de nos priorités personnelles.
Oui.
Et de les assortir avec des actions concrètes. Concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie personnelle? Quel moment j'ai envie de partager avec ma famille? Quelles actions j'ai envie de faire pour moi? Donc ça, c'est la première des choses à faire, je dirais. Après, évidemment, sur le plan des priorités professionnelles, il y a de l'organisation, mais aussi des objectifs, à savoir quelles sont mes missions essentielles, quelles sont les activités à forte valeur ajoutée qui contribuent à ces missions. Et effectivement, derrière, je vais les planifier. Donc là, on retrouve l'organisation, mais également un aspect un peu plus psychologique, parce qu'on a tous des petits diablotins personnels qui nous disent de tout faire parfaitement ou de faire plaisir aux autres et d'être sympa et de rendre service à tout le monde. Donc, quand on est pris de passion par son travail comme Perrine, eh bien, ces petits diablotins vont pouvoir s'activer. Donc l'idée, c'est de prendre du recul et puis de s'organiser effectivement en planifiant et aussi en évaluant la durée pour faire les choses.
Mmh. Parce que vous parlez de ces petits diablotins de façon assez probante dans ce que vous développez. Vous vous interrogez notamment sur la façon de gérer la surcharge de travail et surtout, ce qui me semble très important, les sollicitations et les urgences. Comment se déculpabiliser de ne pas y répondre justement et que faut-il prioriser ?
Oui, alors la surcharge de travail, en fait, elle vient de l'extérieur, mais elle vient aussi de l'intérieur, justement. Quand ces petits diablotins me disent de tout faire parfaitement, eh bien, je vais me rajouter du travail, c'est-à-dire que je vais peaufiner mes dossiers jusqu'à l'excès.
Oui.
Donc, forcément, ça fait plus de travail. Et puis, je vais aussi prendre du travail des autres pour leur rendre service. Donc, ça va m'occasionner un surcroît de travail. Et en même temps, plus je vais faire ça, plus les autres vont attendre de moi que je le fasse. Donc, on est dans une espèce de boucle systémique qui est vicieuse finalement. Oui. Et qui aggrave la situation. Donc, l'idée, c'est de prendre du recul, de se reposer la question des priorités professionnelles, de ce qui est essentiel, et de planifier ça. Et si la surcharge est trop importante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rentre dans un état de fatigue, le discernement sur les priorités, les urgences, les sollicitations, on arrive moins à le faire. Et plus ça va, plus on a du travail. Donc l'idée, c'est de se faire à ce moment-là des petites listes de travail pour le lendemain qui soient très courtes, avec des durées bien évaluées, limiter le temps de travail, commencer par une priorité le matin. Et puis si on est vraiment fatigué, inscrire dans ses priorités, me reposer, c'est un petit peu ce qu'a fait Perrine tout à l'heure quand elle disait, bah, maintenant j'ai mes week-ends, donc elle a inscrit dans ses priorités, je me ressource le week-end.
Ouais.
Voilà, faire une chose à la fois également quand on est en surcharge, c'est très important, parce que l'illusion de faire tout, en fait on n'est pas efficace et ça porte une charge mentale qui est très lourde à porter.
Mais Pascal Bélanger, se sentir en surcharge de travail, d'abord qu'est-ce que ça veut dire et surtout, quels sont les signaux qui doivent nous alerter lorsque nous sommes dans cette position-là?
Alors se sentir à surcharge, c'est deux choses en fait, c'est à la fois j'ai du travail qui s'accumule, et en même temps, c'est le sentiment d'inefficacité personnelle, en fait. Et quand je termine mes journées en ayant le sentiment de rien avoir fait d'essentiel et d'avoir papillonné partout pour faire des tas de petites choses, et finalement, ça me met encore plus en surcharge. C'est aussi un sentiment. Ne pas avancer fatigue, en fait.
Oui. Mais quand on est passionné par son travail, comment s'imposer des bonnes limites ?
Alors, quand on est passionné par son travail, c'est vrai qu'on peut ne plus avoir de discernement sur les priorités. Donc déjà, poser les priorités et les planifier. Renoncer à tout faire. Donc, trier les tâches qui vont vraiment apporter de la valeur ajoutée par rapport à des objectifs. Les tâches qui en ont moins et renoncer à les faire. Et quand je dis renoncer à les faire, c'est décider de ne pas les faire, en fait. Ce qui est différent de ne pas les faire.
Ça peut être...
décider, voilà, on les raye, les raye complètement, on décide de ne pas les faire. Être attentif à ces signaux, c'est être attentif à l'incapacité à décider, par exemple, à prendre des décisions, l'incapacité à discerner ce qui est urgent et important, l'irritabilité, le stress, le fait d'aller dans le surdétail, enfin de ne plus faire ce qui est vraiment essentiel.
Pascal Bélanger, je rappelle que vous êtes auteur et manager de l'expertise efficacité professionnelle chez Segos. Vous restez en ligne avec nous et vous continuerez tout au long de cette émission de nous apporter vos éclairages. Dans quelques instants, on va accueillir Sylvain. Il travaille depuis 10 ans avec sa conjointe. Et là, il est difficile de ne pas ramener le stress du travail le soir à la maison.
Et Franck, 79 ans, témoigne. Au 39-21, je n'ai pas su concilier la vie de couple et la vie professionnelle. J'ai plutôt favorisé la vie pro que ma famille. J'ai été en couple pendant 15 ans et j'ai fini par divorcer.
Europe 1.
Arrivez-vous à concilier sans mal vie professionnelle et vie personnelle ? Arrivez-vous par exemple à vous déconnecter de votre travail à la maison ? Vous témoignez au 39-21. Sur Europe 1 cet après-midi, nous parlons de l'équilibre précieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Comment faire pour laisser son travail à sa place, ne pas se surinvestir ? Venez nous raconter au 39-21. A tout de suite avec Olivier Delacroix. Et c'est Lewis Capaldi avec Someone You Loved. Lewis Capaldi sur Europe 1 avec Someone You Loved. S'épanouir dans son travail, mais sans que ce soit au détriment de sa vie personnelle. Arrivez-vous à maintenir cet équilibre ? Olivier Delacroix vous attend au 39-21. Et on a Bruno, 53 ans, qui témoigne au standard d'Europe 1. J'ai monté mon entreprise dans le transport en 2008. Ça m'a coûté 2 divorces. Je me suis aperçue que j'étais obnubilée par mon travail. J'ai négligé la vie de famille. Je voudrais reconstruire ma vie perso, mais je travaille 7 jours sur 7, 15 heures par jour.
Pascal Bélanger, lorsque on écoute ce qu'Ombline vient de nous donner comme témoignage
de Bruno
qui voilà, a enchaîné 2 divorces, on se dit tout de même que il y a une tendance qui est difficile à inverser, même si on a la volonté de reconstruire quelque chose. Mais là, 2 divorces, un homme qui se déclare passionné et débordé dans son travail. Est-ce que la tendance est vraiment possible à inverser dans ce cas-là ?
Oui, bah déjà ce que je dirais, c'est que Bruno, après 2 divorces, et le fait qu'il appelle aujourd'hui, il a conscience que cette situation ne lui convient pas.
Oui.
Et à partir de là, tout est possible. En fait, la nature a horreur du vide. Donc, s'il n'a pas de projet personnel ou familiaux, ça va être difficile pour lui de lâcher le travail, en fait.
Oui.
Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à Bruno, c'est de se poser la question de ce qu'il a envie de faire concrètement avec sa famille, avec son couple, avec ses enfants. Et de planifier des choses avec eux également. C'est-à-dire que la planification, c'est pas que dans le travail,
oui,
mais ça peut également être dans la sphère privée. Et puis, à partir du moment où les choses sont planifiées, c'est plus facile de lâcher. Après, on peut se dire que on n'est pas complètement indispensable. Donc déjà, est-ce que parmi votre entourage, Bruno, est-ce qu'il y a des gens de confiance à qui vous pouvez déléguer certaines tâches pour pouvoir faire des coupures, être en vacances 100%? Le petit diablotin sur est-ce que vous voulez tout faire parfaitement? Et sans oublier que même avec les clients, finalement, vous êtes peut-être dans une boucle, ce que j'appelle une boucle systémique, c'est-à-dire que plus vous êtes réactif vis-à-vis de vos clients, plus vos clients s'y prennent tard pour vous demander des services, moins ils anticipent parce qu'ils ont l'habitude de vous voir très réactif. Donc peut-être que c'est cette boucle-là qu'il faut inverser, redonner un petit peu de délai peut-être dans vos réponses à vos clients. Ou, comme je disais tout à l'heure, déléguer, mettre en place un système de délégation pour que les choses se fassent sans vous.
Mais Pascal Bélanger, 1500 entreprises créées par jour en France, qui est un chiffre incroyable, mais qui traduit aussi une envie de liberté aussi dans son travail, puis peut-être de confirmer qu'on donne du sens encore plus à sa vie professionnelle. On a écouté Perrine, on constate que de plus en plus de personnes ont cette envie de se mettre à leur compte. Est-ce que c'est symptomatique d'une époque ?
Oui, c'est sans doute symptomatique d'une époque puisqu'on le constate.
Oui.
Maintenant, ça ne change rien à l'envie de s'épanouir. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on assiste à une espèce de fusion entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Quand je monte mon entreprise, ce que disait Perrine, c'est qu'elle avait envie d'apporter du bien aux gens, d'aider les gens. Donc c'est sa passion personnelle et en même temps, elle arrive à aligner sa passion personnelle avec son métier. Donc c'est formidable. Maintenant, il y a aussi d'autres besoins. C'est-à-dire qu'au-delà de cette sphère personnelle et de cette sphère professionnelle, il y a aussi la sphère familiale. Et là, ce qu'évoque Bruno et ce qu'avait constaté Perrine aussi tout à l'heure avec son couple, c'est que c'est la sphère familiale qui en pâtissait. Donc là, c'est une sphère qui doit être toute petite dans leur environnement de vie, dans leur emploi du temps. Et comment le faire grandir ?
On va accueillir dans quelques instants Stéphane, qui il y a 10 ans est devenu photographe, un métier qui, on va le voir, ce métier passion, comme on les appelle, ce métier de photographe l'a complètement envahi. Et puis, on va connaître le reste de son histoire et l'impact que cela a eu sur sa vie privée. Frédéric Bélanger, vous restez avec nous. Vous allez continuer à nous accompagner. On se retrouve d'ici quelques instants.
Europe 1. Quand la vie professionnelle déborde sur la vie privée, vous ramenez à la maison du boulot, du stress, des coups de fil pro pendant le week-end par exemple. On vous écoute au 39-21. Vous nous écrivez, nous vous lisons sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Privilégiez votre carrière au détriment de votre vie privée. Comment trouvez-vous le juste équilibre entre votre métier et votre vie personnelle ? Vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et il y a des solutions, mettre des limites, rayer la surcharge, en tout cas toutes les choses qu'on peut éviter, comme nous le disait Pascal Bélanger, qui nous accompagne aujourd'hui et qui est notre expert du jour dans cette surcharge de travail. Avant d'accueillir Sylvain, on va tout d'abord parler à Frédéric, qui a connu une période de grande pression professionnelle qui a carrément fait vaciller sa vie de famille. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous? D'où nous appelez-vous, Frédéric?
Alors aujourd'hui, j'ai 63 ans.
Oui.
Et je voulais parler d'une période où j'ai eu 33 ans, je me suis marié. Et j'ai eu 3 enfants à 1 an et demi d'écart et ma femme travaillait aussi.
Oui.
Et c'est une période où on est dans l'investissement professionnel à fond, puisque jusqu'à, j'ai envie de dire, tout le temps, mais à 45 ans, on s'investit pour des promotions et tout le reste. Et donc, je me suis énormément investi dans mon travail que j'ai toujours aimé, quelle période que ce soit.
Oui.
Et je me suis aperçu que je passais à côté de plein de choses, mais j'en étais à la fois conscient et semi-conscient.
C'est-à-dire alors, que
je savais qu'il fallait...
Qu'entendez-vous par là, en fait ? Je passais à côté de choses essentielles. Je suppose que ce sont vos enfants, votre femme,
c'est
votre vie de famille.
C'est-à-dire que ma femme allait en rendez-vous, dans des rendez-vous qui étaient peut-être très sensibles, qui étaient très sensibles de santé. J'avais pas le temps d'y aller.
Oui.
Elle m'en veut encore. Sur certains rendez-vous, elle est partie toute seule ou elle revenait de l'aéroport en taxi ou parce que j'étais pas disponible.
Oui.
Et moi, j'étais pris dans cette spirale infernale de la passion du travail et du temps et voilà. Et donc ça a beaucoup fragilisé la famille. Je n'en suis pas allé au divorce. Mais pour vous dire, cette non-disponibilité ressort de temps en temps.
Mais alors Frédéric, lorsque vous parlez de semi-conscience, de justement de passer à côté des choses, qu'entendez-vous par là ? Vous ressentiez que vous passiez à côté de ces choses ? Vous en aviez conscience ?
J'en avais conscience, c'est-à-dire je me disais, bon, j'ai une femme qui est forte, elle peut assumer, elle travaillait à temps partiel, elle avait pris son vendredi depuis la naissance des enfants.
Oui.
Et je me disais certainement pas explicitement, mais inconsciemment, voilà, le rendez-vous, il a qu'à être fixé le vendredi et elle pourra y aller. Donc, j'étais certainement tiraillé en moi, en me disant, mais il y a l'investissement professionnel, il y a les challenges, il y a les résultats à obtenir. Donc, au niveau de la vie de famille, ça doit s'organiser, à la limite, sans que je sois là, quoi.
Vous comptiez en tout cas sur votre femme, ce qui est typiquement masculin.
Voilà, oui, qui est typiquement masculin, c'est très égoïste comme attitude. Je l'assume, j'assume cet égoïsme-là à cette période-là,
oui,
d'investissement utile. Je ne dis pas que je me défends pas, c'est avec le recul, je dis c'est pas bien ce que
j'entends. J'entends. Et alors justement, Frédéric, quel a été le déclic ? Est-ce qu'à un moment il y a quelque chose qui vous a fait vous dire que ça ne pouvait pas durer comme ça, que vous alliez perdre les vôtres ?
Alors, le déclic, ça a été d'abord un burn-out, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que un tiraillement entre ces enfants qui grandissent,
oui,
et où je comptais quand même m'en occuper. Je m'en suis occupé, je veux pas dire que je m'en suis pas occupé, mais je m'en suis occupé, mais pas comme il fallait, au moment où il fallait, le mardi soir quand il fallait chez le médecin, ou à des moments clés. Je m'en suis occupé, j'ai fait des tas de révisions le week-end pour les faire travailler et autres. Mais dans la semaine, c'était très compliqué, quoi. Et quand je dis que j'étais semi-conscient, c'est que je me disais, oui, mais moi, j'ai une vie de famille une famille à faire vivre, il faut que je m'investisse. Et si je fais pas ça, je vais rater la promotion qui peut arriver 3 ans après ou 2 ans après.
Et c'est souvent un réflexe.
Voilà, donc quand je dis c'est semi-conscient, c'est ce tiraillement,
oui,
en fait, entre l'égoïsme de l'avancement professionnel et la vie personnelle, en fait, où finalement de loin, on n'est pas de loin, mais on s'en rend compte, mais on se dit ça va passer.
Oui, jusqu'au moment où ça ne passe plus.
Jusqu'au moment où ça va
passer. Comme vous l'avez dit, le burn-out a été finalement la limite que votre corps vous a mis à tout le temps reporter les choses et peut-être compter un peu trop sur votre femme, et puis tout le temps continuant, si j'ai bien compris, à être aussi à 200%. Il y a un moment où ça craque. Pascal Bélanger nous l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment, en fait, on ne peut plus aller au-delà de ce que le corps nous autorise, même si il est très généreux avec nous. Merci Frédéric. On va parler de cette surcharge de travail, mais quand elle est partagée au sein d'un couple, nous accueillons Sylvain maintenant. Pardon, excusez-moi, non, je dis n'importe quoi. Nous accueillons Stéphane, qui n'est pas du tout en couple, mais c'est ce fameux photographe,
oui,
qui lui aussi a été rattrapé par cette surcharge de travail. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Olivier.
Pardonnez-moi, parce qu'en fait ça change beaucoup. Ce sont les aléas du direct, ça va, ça vient. Donc Stéphane, donc vous, votre métier passion, c'est la photo.
La photographie, oui.
Parlez-moi du fait d'avoir été salarié, tout d'abord dans un premier temps, et puis avoir suivi ensuite cette formation de photographe. Au départ, ça vous faisait peur de travailler à votre compte ?
Ah oui, totalement, puisque pour moi c'est complètement une découverte. Un saut dans l'inconnu, j'ai envie de dire, mais
oui,
c'est aussi, ça partait d'un souhait profond d'essayer de trouver un bonheur autre part que dans le salariat.
Mm-hmm.
Donc moi j'ai vraiment exploré, je suis vraiment passé du monde du salariat au monde des freelances, qui est pour moi un monde fantastique. Donc partant de là, j'ai vraiment voulu aller dans le mieux, trouver quelque chose de mieux, de plus vivable entre guillemets. Donc c'est passé forcément par ce métier de freelance, de photographe, où on se retrouve du jour au lendemain à la maison, parce que j'ai un bureau dédié à ça à la maison. Forcément, au début, c'est grisant, donc on compte pas les heures à la maison, puisqu'on en fait plus, bien sûr. Et après, finalement, la réalité nous rattrape vite, puisqu'on se rend compte vite de la dérive. des horaires, de la surcharge de travail, et j'ai vite rectifié par rapport à ça, en fait.
Alors justement, on va voir combien cela a été bénéfique pour vous de vous mettre à votre compte, de vous rendre compte aussi qu'à un moment vous étiez en surcharge et que vous avez rectifié le tir, comme vous le dites, et que tout le monde à la maison en a bénéficié. Mais la suite de votre histoire, c'est dans quelques instants.
Europe 1.
Vous arrivez à préserver votre vie personnelle, le travail ne passe pas le pas de votre porte, ou la déconnexion dans tous les sens du terme avec votre vie pro est quasi impossible, vous composez le 39-21. Comment ne pas se laisser déborder par son activité professionnelle? Comment préserver sa vie privée? L'équilibre, vous l'avez trouvé, le 39-21, pour venir échanger avec Olivier Delacroix au Standard d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1. Voici Angèle avec Flou. La dernière piste, la chanson de conclusion de son premier album Brol, Angèle avec Flou. Sur Europe 1, nous parlons de l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Stéphane qui nous expliquait dans l'avant-dernière partie de cette émission que avant, il était salarié et puis à un moment, il s'est décidé à faire le grand saut et puis à aller vers une passion dont il pouvait faire son métier. Et après une formation, Stéphane, vous êtes devenu photographe. Vous nous disiez aussi qu'au début, c'était tellement grisant qu'on sent que vous êtes lancé corps et âme dans ce travail. Et puis, vous nous l'avez raconté, à un moment, vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus au sein de votre famille et que c'était cette surcharge de travail, grisante, aussi grisante soit-elle, mais qui était en train d'impacter les vôtres. À un moment, un déclic est venu. Il est venu de vous. Frédéric parlait de semi-conscience, de négliger les siens. Est-ce que vous, c'est venu plus facilement, ou est-ce que vous étiez dans une semi-conscience aussi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
Oui, je pense que c'est Frédéric l'a très bien dit. On se retrouve un peu comme ça entre deux eaux, c'est-à-dire on est conscient que voilà qu'il faut donner plus parce qu'on lance une activité. Il n'y a pas de patron dessus, il y a nous, il y a les clients, mais on est conscient d'un autre côté aussi qu'on est plus proche de notre vie familiale, parce que pour moi c'était un choix. Ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis lancé, c'est-à-dire passer plus de temps avec mes enfants. Et au début, voilà, même si au début on est dans le flou et qu'on tâtonne et donc forcément ça prend plus de temps, on essaye des choses. Étant donné que je travaille à la maison, on se rend vite compte que quand je suis pas disponible pour les enfants ou quand je suis pas disponible pour ma compagne, ça le fait une fois, deux fois, et là je me rends vite compte que non, si tu à un moment donné il y a des horaires de travail, il y a aussi des horaires pour la famille. Et ça, il faut les respecter, il faut se mettre un cadre assez rigide, quoi. Peut-être plus rigide que lorsqu'on est salarié.
Désormais, vous arrivez à être totalement dédié à votre famille sans être pollué par des problèmes de boulot?
Je suis arrivé à faire, à avoir un bon compromis, c'est-à-dire, typiquement, j'accompagne les enfants à l'école le matin, je rentre dans mon bureau, je travaille jusqu'à certains horaires, et à 17h, je les récupère, quoi qu'il arrive. Et le soir, c'est dédié à la famille. S'il faut que je travaille un peu le soir après le repas, mais pas grand-chose, parce qu'il y a aussi ma compagne qui, quand elle est là, il faut aussi passer du temps avec. Et j'ai appris, à un moment donné, je ne suis pas disponible pour eux, c'est comme ça, ils le savent. Ils peuvent me joindre à certains horaires. Et ma vie professionnelle, autant c'est une passion, mais elle est importante, mais ma vie personnelle est quelque chose aussi de... Comme ça a pesé dans la balance, je ne peux pas la laisser de côté.
Alors, même si on sent que vous avez qu'un véritable déclic s'est posé, on sait aussi que le métier que vous exercez, celui de photographe, ressemble au nôtre, hein, journaliste, intermittent du spectacle, et qu'il arrive souvent aussi que vous soyez sollicité le week-end. Vous dites que vous vous faites encore constamment piégé et que vous ne devriez pas. Comment est-ce que vous rectifiez le tir quand c'est le cas?
Alors moi, je ne travaille pas les week-ends parce que je fais plutôt de l'entreprise, c'est-à-dire je suis photographe immobilier dans l'hôtellerie de prestige et la décoration intérieure. Donc je suis pas, par exemple, photographe de mariage.
D'accord.
Donc ça, je ne travaille pas les week-ends. Donc c'est aussi c'est plus facile. Disons que c'est plus facile. C'est vrai que les week-ends sont totalement dédiés à la famille, même si j'ai quelques heures de travail. Ça, par contre, c'est dédié à la famille. Et c'est vraiment la semaine où je travaille. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment j'ai des horaires pratiquement de bureau, même si un moment donné, ça arrive qu'il faut se déplacer le soir pour aller voir un client. Mm-hmm. Mais voilà, j'essaie de m'arranger différemment.
Aujourd'hui, vous vous sentez moins tiraillé, plus en phase avec, avec votre philosophie de vie ?
Oui, complètement, parce qu'on apprend aussi à dire non. Et du coup, on apprend à se recentrer sur les bonnes choses. En tout cas, moi, j'ai réussi à me recentrer sur les bonnes choses. Oui. J'apprends à dire non, ce qui est pas facile au début quand on est freelance, parce que c'est un métier aussi précaire. Faut pas se leurrer. Mais il faut apprendre à dire non. Ça passe par là. Et j'ai gagné certainement quelque chose. Ouais, très important.
Et c'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce que votre famille, vous avez des retours des vôtres? Est-ce que vous sentez? Est-ce qu'ils vous l'ont carrément dit, ou est-ce qu'ils vous font sentir que maintenant vous êtes là et que vous occupez une place importante?
Bien sûr, oui, ils me le disent. Mon fils, j'ai des enfants en bas âge, mon fils se gêne pas de me dire que je travaille trop, que là il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on aille voir. Et puis, quand je suis là, bien sûr, ça a changé beaucoup de choses, évidemment, bien sûr.
Merci beaucoup Stéphane pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1, ça va venir. Et merci aussi à Perrine, à Sylvain, à Frédéric de nous avoir partagé leur quotidien et aussi à Pascal Bellorger, décidément, pour ses conseils et ses éclairages. Je rappelle que Pascal Bellorger a écrit un ouvrage sur la gestion du temps et de management dans l'entreprise et chez Segos. En fait, elle est experte de l'efficacité professionnelle.
Oui,
voilà,
exactement.
Je vais y arriver. La limite entre vie privée et vie professionnelle est souvent fine, on l'a entendu. Pourtant, il semble primordial de s'accorder des temps de répit, de souffler. Pour être heureux, il ne faut pas avoir l'impression de tout sacrifier, ni de passer à côté de moments précieux. S'organiser, faire une liste de ses priorités, ne pas repousser ni reporter un temps de pause que l'on voulait s'accorder, peuvent aider à trouver l'excellent équilibre. Et puis, bien souvent, une vie personnelle intéressante permet d'enrichir sa vie professionnelle. À méditer, vous pouvez continuer à échanger sur les réseaux sociaux.
Entre vous, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Twitter, hashtag Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel. Et le soir, vous continuez d'échanger, si vous le souhaitez, sur l'antenne d'Europe 1 avec Sophie Peters, la libre antenne de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du minimalisme. Qu'est-ce que c'est ? Si vous avez appris à renoncer aux achats compulsifs pour pratiquer une consommation réfléchie, si vous aspirez à plus de simplicité et à posséder moins, alors appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous. Je vous laisse maintenant dans quelques minutes avec Carl Zero et ses tontons flingueurs. Deux tontons flingueurs assez complémentaires si l'on charge bien, mon cher Carl.
Oui, mon cher Olivier, tu sais, aujourd'hui, j'ai deux personnages peu recommandables. Laurent Romeshko, qui fait la météo et déchiffrer des lettres, et Jérémy Frérot, mais il est venu sans De La Vega, l'autre.
Ah, c'est bien ce que je disais, Ombline.
Oui.
Un tonton flingueur chanteur et puis l'autre qui fait la météo. Donc, voilà.
On peut trouver un lien.
On peut trouver un lien en se creusant la tête
Mais
peu.
Oui.
S'il enchante,
il est très solaire, Jérémy Frérot. C'est très positif.
Bah écoutez, voilà. on va voir ça. Et Laurent Romeshko, que je connais aussi. Alors, deux tontons flingueurs très solaires,
voilà.
Avec Carl Zero à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, Ombline.
À demain.
Une belle fin de journée à vous tous qui êtes présents et avec nous sur Europe 1 tous les jours. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir pour parler du minimalisme demain à partir de 15h. Au revoir.